Alors, c'est parti. Bonjour. Aujourd'hui, je vais entreprendre une étude sur un livre qui est fascinant. Un livre qui a attiré l'attention, qui attire l'attention de beaucoup de gens, qui en même temps qui fait beaucoup peur, qui fait peur à beaucoup de monde aussi. C'est le dernier livre de la Bible, c'est le livre, le livre d'Apocalypse, autrement dit. Ce livre traite d'eschatologie biblique, qui veut dire l'étude des dernières choses. Il contient 22 chapitres. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ce livre ne traite pas seulement des choses des temps de la fin. C'est aussi un livre que l'on peut appliquer à notre propre vie personnelle aussi. Chaque livre de la Bible contient des applications personnelles dans notre vie de tous les jours, et le livre de l'Apocalypse ne fait pas exception. Il y aura des enseignements qui seront des instructions, qui seront des encouragements, des corrections et des avertissements, aussi bien que des exhortations au fur et à mesure que nous étudierons le texte aussi. Eh bien, ça m'arrive de faire des petites erreurs de frappe. Nous allons étudier l'Apocalypse d'un point de vue futuriste, pré-millénériste et pré-tribulationniste. C'est dur à dire. Hein? Ça prend la bonne diction. Et je vais vous définir un peu plus loin ce que ça veut dire ces termes, car c'est très important afin de bien comprendre ce livre. Ce livre est le point culminant de la Bible, enregistrant ce que Dieu a commencé dans le tout premier livre qui est la Genèse. La Genèse signifie littéralement le livre du début ou le livre du commencement, tandis que l'Apocalypse enregistre la fin ou l'achèvement de toutes les choses relatives au plan de Dieu pour sa création. Si on fait un parallèle entre les deux livres, c'est un livre où la communion avec Dieu est brisée dès le chapitre 3 dans la Genèse, tandis que dans l'Apocalypse, cette relation entre l'homme et Dieu, elle est restaurée. Dans le livre de la Genèse, on retrouve les origines de l'homme, la création de l'homme et de la femme, et dans le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la fin de l'homme tel que nous le connaissons sur terre. Dans le livre de la Genèse, nous voyons la création du ciel, de la terre et de tout l'univers, tout ce qu'elle contient. Dans l'Apocalypse, la terre et le ciel actuel sont détruits et remplacés par un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout ce que Dieu a planifié, que l'homme et Satan ont détruit. Dieu, dans son jugement final, restaure toutes choses. Le paradis perdu de la Genèse se retrouve une fois de plus où un nouveau ciel et une nouvelle terre existent. Où que l'on voit également l'arbre de vie et la rivière de vie, et la communion entre l'homme et Dieu, elle est restaurée. Donc, le livre de la Genèse et l'Apocalypse sont comme un serre-livre. Le premier et le dernier livre de la Bible maintient tous les livres ensemble. Ils soutiennent tous les autres. Et en tant que tels, de nombreux personnages et mondes créés, retrouvés dans la Genèse, se retrouvent également dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est à la fois littéral et symbolique. On retrouve entre autres la lumière et les ténèbres, les étoiles, Babylone. On retrouve une mariée, un jardin, un arbre de vie. On retrouve également le serpent qui a séduit Adam et Ève, qui est le symbole de Satan. Au chapitre 3 de la Genèse, on le retrouve dans Apocalypse, chapitre 12 et chapitre 20, parce que le livre de l'Apocalypse est rempli de symboles plus que tout autre livre du Nouveau Testament. Malheureusement, de nombreuses personnes, de nombreux chrétiens même, ne lisent jamais l'Apocalypse, ne l'étudient jamais. Ils ont presque peur de lire ces pages. En fait, même certaines confessions chrétiennes ne l'enseignent pas tout simplement. Ils prétendent qu'il est impossible de le comprendre. C'est dommage, car Dieu veut que l'on lise l'Apocalypse et qu'on comprenne ce livre. En fait, c'est le seul livre de la Bible avec une bénédiction promise. Une bénédiction à ceux qui le lisent, à ceux qui l'écoutent et ceux qui le gardent. Enfin, ceux qui espère en son accomplissement, qui espère l'accomplissement des paroles qui sont écrites. On voit cela dès le premier chapitre, au verset 3, qui nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, il y a une promesse. Il y a également sept béatitudes promises aux croyants dans le message de Jésus aux sept églises. Les sept églises que l'on retrouve au chapitre 2 et 3. Donc, c'est très important de connaître ce livre. Nous savons que nous vivons dans les derniers jours et les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ sont tout autour de nous. Et un des plus grands signes, et je dirais un signe central, qu'on voit que l'on est dans les temps de la fin, est la renaissance du peuple d'Israël qui renaît de ses cendres en 1948, le 14 mai. Ils ont reconquis Jérusalem en 68, qui leur appartient maintenant. La première chose que l'on va regarder ensemble est qui a écrit ce livre et quand ce livre a été écrit. Donc, qui en est l'auteur? Historiquement, le livre de l'Apocalypse a été attribué à l'apôtre Jean, qui est un fils de Zébédée et un des 12 apôtres. La preuve interne est claire que l'Apocalypse a été écrite par quelqu'un du nom de Jean, parce que cette personne parle de même au chapitre 1, 4 et 9. D'ailleurs, le chapitre 1 commence comme suit. « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il fait connaître par l'envoi de son ange et son serviteur Jean. » Au verset 4, « Jean, aux sept églises qui est en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et celui qui est, qui était et qui vient. » Puis au verset 9, « Moi, Jean, votre frère, au chapitre 22, 8, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. » La question est de savoir si le Jean qui est cité dans ce livre est véritablement l'apôtre Jean. Je soulève cette question car il y a des personnes qui se sont questionnées à ce sujet. Certains prétendent que ce n'est pas Jean l'apôtre, mais plutôt une autre personne nommée Jean. Peut-être même Jean l'Ancien ou même Jean-Marc qui en est l'auteur. Cependant, la preuve externe est formelle que l'apôtre Jean en a été l'auteur. Et d'ailleurs, les premiers pères de l'Église primitive en font mention. Donc, d'une manière significative, tous les pères de l'Église ont reconnu l'apôtre Jean comme étant l'auteur. Entre autres, Justin Martyr, Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien. Donc, c'est plutôt convaincant. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que l'apôtre Jean a écrit ce livre. Je pense à une personne en particulier qui s'appelait Dionysius, qui a vécu au 3e siècle, près de 150 ans après que Jean ait écrit l'Apocalypse. Donc, il a rejeté la paternité apostolique de Jean. Dionysius était un enseignant d'Alexandrie en Égypte et qui était d'ailleurs un foyer d'enseignement hérétique. Et sa principale objection à Jean, en tant qu'auteur de l'Apocalypse, était qu'il ne croyait pas non plus à un royaume de 1000 ans, littéral, tel qu'il est décrit dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. C'est pourtant très clair. Il y avait donc une très grande motivation de sa part à rejeter l'autorité apostolique de tout le livre. Ainsi, il a conclu sur la base de ce qu'il considérait comme la pauvre grammaire du grec employé dans l'Apocalypse, comme si Jean ne l'avait pas écrit. Il croyait que Jean n'avait pas un langage littéraire très développé. Mais la preuve est forte que ce n'était personne d'autre que Jean, le plus jeune des 12 apôtres de Jésus et le dernier apôtre vivant. Deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la date à laquelle que le livre de l'Apocalypse a été écrit. Eh bien, au moins les trois premiers pères de l'Église ont été d'accord de dire qu'il aurait écrit le livre en 95 et 96 après Jésus-Christ, alors qu'il était en prison sur l'île de Patmos. Cette date correspond très bien aux archives historiques, puisque Domitien, qui était l'empereur romain à cette époque, et qui a fait emprisonner Jean à cette période, Domitien a été assassiné en 96. Donc, il fallait que Jean ait écrit ce livre avant sa mort. Après la mort de Domitien, la persécution romaine officielle de l'Église a pris fin et Jean fut alors libéré de sa prison. La date de rédaction par Jean est significative parce qu'elle place le livre de l'Apocalypse comme le tout dernier livre du Nouveau Testament et qui ferme le canon des Écritures. Le dernier livre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, à la fin du livre de l'Apocalypse, il y a une mise en garde au chapitre 22, versets 18 et 19, qui dit « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Un autre point que j'aimerais vous apporter est quel est le type de littérature qui est employé dans ce livre. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une littérature à but apocalyptique. Cette littérature est définie comme ceci. C'est un genre littéraire qui prédit des événements cataclysmiques d'inspiration surnaturelle qui se produiront à la fin du monde. En plus, la littérature apocalyptique repose sur l'utilisation intensive des symboles, des signes et des visions. D'ailleurs, si on regarde l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, il y a 4 livres qui sont de type littéraire apocalyptique. On a le livre du prophète Ésaïe au chapitre 24 à 27, chapitre 33 et le chapitre 34 et 35 qui parlent du jugement des nations. On a aussi le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 38 et 39, lorsque Gog attaque Israël. Il y a aussi le livre de Daniel, au chapitre 3, versets 9, 17, où il est question du jugement des nations. Nous avons également le livre de Zacharie, au chapitre 12 à 14, lorsque Jérusalem deviendra une coupe d'étourdissement pour les nations, lorsque Jérusalem sera attaquée par toutes les nations, par toutes les nations, sera investi par les rois militaires du monde, lorsque Dieu viendra défendre son peuple contre ses ennemis de façon surnaturelle. Et les Juifs, à ce moment-là, se repentiront et reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Nous avons aussi, encore dans le livre de Daniel, qui est un livre apocalyptique au chapitre 7 à 19, où il est question des 4 bêtes et de l'Antéchrist. Un autre point à mentionner. Il y a dans l'Apocalypse beaucoup de symboles et quelques conseils et outils pour comprendre ce livre. La plupart des symboles sont expliqués dans le contexte et dans certains prophètes de l'Ancien Testament. S'ils ne sont pas, nous devons présumer que ça doit être compris dans l'interprétation la plus naturelle possible. Par exemple, dans l'Apocalypse, au chapitre 1 et le verset 20, il est dit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Puis, je vais en parler plus tard dans d'autres messages, mais les chandeliers, là, le mot grec pour chandelier, là, c'est pas vraiment... je trouve que c'est mal traduit, puis c'est plus une lampe à l'huile. Puis l'huile représente le Saint-Esprit, puis en tout cas, je vais rentrer plus en détail plus tard là-dessus, mais je trouve ça vraiment intéressant là, quand on étudie vraiment en profondeur ce que l'Apocalypse amène. C'est incroyable, là. Donc, on voit ici que l'explication du symbole est donnée exactement dans le verset. Donc, les étoiles sont des anges, ou encore des messagers, et le chandelier est un symbole de l'Église. Et l'Église est la lumière du monde dans les Écritures. Le nombre 7 est également mentionné. Et c'est le nombre littéral d'Églises qui sont abordées au chapitre 2 et 3 de ce livre. Entre autres, nous verrons l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Toutes ces églises-là ont existé physiquement, géographiquement, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, le Moyen-Orient, au Moyen-Orient. Souvenez-vous que Dieu veut que son peuple comprenne. Dieu ne nous a pas donné la Bible, sa parole, pour que ce soit un mystère. Dieu veut vraiment que nous comprenions ce livre. Et pour bien comprendre les textes bibliques, il y a des règles à suivre pour ne pas tomber dans la confusion et dans l'erreur. Et cette règle s'appelle l'herméneutique biblique. Et laissez-moi vous expliquer. Je ne vais pas vous donner un des grands mots et des grandes explications. Je vais rendre ça juste simple un peu. Mais c'est vraiment important qu'on comprenne ça. L'herméneutique est en fait l'étude des principes et des méthodes d'interprétation des textes bibliques. Et le but de l'herméneutique biblique est de nous aider à savoir comment interpréter, comprendre et aussi comment appliquer correctement la Bible. La loi la plus importante de l'herméneutique biblique est que la Bible doit être interprétée littéralement. Nous devons comprendre la Bible dans son sens normal et simple, à moins que le passage ne soit manifestement destiné à être symbolique ou des figures de style sont employées. Une deuxième loi cruciale de l'herméneutique biblique est que le passage doit être interprété historiquement, grammaticalement et aussi dans leur contexte. Parce qu'on dit que expliquer un texte sans son contexte devient un prétexte. Donc, interpréter un texte historique signifie que nous devons chercher à comprendre la culture, le contexte et aussi la situation géographique qui ont inspiré ce texte. La troisième loi de l'herméneutique biblique est que l'Écriture est toujours le meilleur interprète de l'Écriture. Amen. Pour cette raison, nous comparons toujours les Écritures avec les Écritures. Lorsque nous essayons de déterminer le sens d'un passage, la Bible elle-même est le meilleur commentaire biblique. Un éminent théologien biblique a dit ceci: la règle de l'herméneutique ne change pas quand on tourne une nouvelle page. Elle a dit aussi que la preuve ultime que la prophétie de l'Ancien Testament doit être prise littéralement et non spirituellement ou allégoriquement est que 113 prédictions messianiques que le Christ a déjà accomplies, tout se sont réalisées littéralement. Donc, si en ce qui concerne l'Ancien Testament, les prédictions de l'Ancien Testament entourant la première venue de Christ se sont accomplies, ont été prises à la lettre, alors il est logique qu'il n'y ait aucune justification de spiritualiser les prédictions de la seconde venue de Christ. Amen. Par conséquent, nous aborderons l'étude de l'Apocalypse en sachant que Dieu a donné la vision à son apôtre Jean, à ses serviteurs, afin que nous puissions le comprendre. Et nous emploierons la même herméneutique littérale, grammaticale et historique. Un autre point important est le vocabulaire qui est employé dans ce livre. Entre autres, les termes comme la tribulation, la grande tribulation, les temps de trouble de Jacob, les 70 semaines de Daniel, donc tous ces termes réfèrent aux 7 années de l'histoire humaine avant le retour de Jésus-Christ. Alors que le terme la grande tribulation parle des 3 dernières années et demie de la tribulation de 7 ans. Un autre terme que j'aimerais expliquer est le royaume millénaire ou encore le millénium. Ce règne millénaire fait référence au règne de 1000 ans de Christ sur la terre, tel que décrit dans les chapitres 20 de l'Apocalypse. Mais tous les chrétiens ne croient pas qu'il s'agit d'un royaume littéral, malheureusement. Ils ne sont pas non plus d'accord sur le moment où Jésus reviendra lors de son deuxième avènement. Et laissez-moi vous présenter les 3 positions concernant le millénium, et je vais vous parler de ma position personnelle également. Premièrement, il y a la position prémillénaire, c'est-à-dire ceux qui croient qu'après la tribulation, Jésus viendra sur terre et établira son royaume pendant 1000 ans. Et c'est la position que j'adhère. Parce que je considère que c'est la position la plus exacte, la plus biblique. Il y a également la position amillénariste, qui ne croit pas à un règne millénaire de 1000 ans de Christ. Au contraire, ces personnes croient que l'âge du royaume mentionné dans l'Apocalypse 20 n'est pas une période littérale, mais devrait plutôt être compris au sens figuré, comme se référant au règne de Christ sur la terre aujourd'hui, et c'est la théologie de la théorie du remplacement ou du supersessionnisme que l'Église a remplacé Israël. Ça, j'ai vu ça dans beaucoup de milieux, là, qu'ils autres croient que l'Église a remplacé Israël, puis Israël est complètement rejeté par Dieu. Là. C'est totalement faux. Puis je n'adhère pas à ça du tout. Là. Puis Israël existe bel et bien aujourd'hui, et puis, comme j'ai dit tantôt, le 14 mai 1948, ils sont redevenus une nation. Il y a encore des promesses qui vont s'accomplir concernant le peuple d'Israël, le peuple juif qui existe présentement sur la terre. Il y a aussi la troisième position, qui est la position post-millénariste. C'est un peu une position similaire à la position amillénaire. Ils croient que l'Église inaugurera une société utopique sur Terre à la fin de laquelle Jésus viendra pour régner. Donc, le monde va aller en s'améliorant. C'est ce qui est très difficile à croire actuellement, là. Ouais, ça marche pas. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, hein. Ça va pas s'améliorer du tout, là. Donc, ces gens ne croient pas que les 1000 ans d'Apocalypse 20 sont littérales. Ils interprètent plutôt comme figuratifs. C'est la théologie du royaume maintenant. Donc, en ce qui me concerne, mon approche de l'Apocalypse est d'interpréter la vision de Jean comme des événements littéraux, à moins que le texte l'exige autrement. Donc, j'enseignerai une vision prémillénariste qui croit qu'après la tribulation, Jésus reviendra établir son règne pendant 1000 ans. En étudiant l'Apocalypse, je parlerai aussi de ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Ça va être le fun. L'enlèvement des croyants nés de nouveau. Il y a différentes positions sur l'enlèvement aussi, hein? Donc, l'enlèvement est une doctrine qui n'est pas explicitement enseignée dans l'Apocalypse, mais toutefois, certains indiqueraient que l'expérience que Jean a eue au chapitre 4, verset 1, est une image de l'enlèvement pré-tribulationniste, donc avant la tribulation, et nous allons y revenir. Puis si vous voulez aller voir, on va le lire ensemble. C'est chapitre 4, verset 1. Ouais. Il dit, « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Ça laisse présager ça. Puis moi, je crois ça, là, tu sais, que Jean, c'est ça. Et tous les chrétiens ne croient pas la doctrine de l'enlèvement de l'Église. Mais parmi ceux qui y croient, il y a 5 points principaux. Premièrement, il y a les pré-tribulationnistes dont je fais partie, qui croient que Jésus reviendra pour son Église, son épouse, avant la tribulation. Il y a aussi ceux qui sont mi-tribulationnistes. C'est un point de vue selon lequel Jésus reviendra pour son Église au milieu de la tribulation, juste avant le début de la grande tribulation des 3 ans et demi, au son de la dernière trompette. Parce qu'il y a une confusion par rapport à... dans Corinthiens, en tout cas, qui dit au son de la dernière trompette, l'ange criera, en tout cas. Puis ils ont associé ça à la trompette du milieu de la tribulation. Il y a ceux qui sont de la position que l'on appelle précolaire aussi, dont le point de vue selon lequel que Jésus amène l'Église au ciel entre le jugement du 6e et du 7e sceau. Il y a aussi ceux qui ont eu une position post-tribulationniste, qui croient que Jésus reviendra chercher son Église à la fin de la tribulation des 7 ans. Il y a également la 5e position, qui est la position pan-tribulation. C'est assez simple, cette position-là. Ils disent, attendez et voyez comment ça se passe. C'est pas très théologique. Donc, j'interpréterai l'Écriture faisant la promotion d'un enlèvement d'un point de vue pré-tribulationniste avant la tribulation. Et le pourquoi de ça, eh bien, c'est basé sur le fait suivant. Il faut savoir que dans la Bible, le mot « église », et il faut comprendre aussi que le Nouveau Testament, la traduction que l'on a en français et en d'autres langues également, nous vient du langage grec. Et dans le mot grec, signifie « ecclésia », et fait référence à l'ensemble des croyants nés de nouveau qui forment le corps de Christ. Et à nulle part, nous retrouvons ce mot dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 3, verset 14 et jusqu'au chapitre 22, verset 16. Nulle part dans ces passages, dans cette partie de l'Apocalypse, le mot « église » est mentionné. Il y en a qui argumentent en disant « Ah, oh, il y a le mot « saint » aussi. » Parce qu'on est appelé des saints. Aux autres chapitres de ce livre, ils disent que le mot « saint » est écrit et que l'Église sont des saints qui sont rachetés par le sang de Christ. Donc, les saints se retrouvent dans la grande tribulation. Eh bien, on doit comprendre que le mot grec, le mot « saint » en grec, est le mot « agios ». Et ce mot est utilisé pour inclure tous les croyants de toutes les générations et tous les âges. Durant la tribulation, il y a des milliers de gens qui seront sauvés et deviendront des saints. Ils seront appelés saints. Mais il y a une chose, ils devront payer de leur vie à cause de leur foi. Parce que l'Antéchrist ne les laissera pas vivre. Il les mettra à mort. Ils seront décapités pour leur foi, comme nous étudierons un peu plus loin. Et ce ne sont pas les sauvés de l'Église, parce que l'Église n'existe pas dans ces chapitres. L'Église n'est pas mentionnée. Donc, les saints qui sont mentionnés dans le chapitre 13, 14, 16, 17 et 18 sont les saints de la grande tribulation. Ceux qui seront sauvés après l'enlèvement. Car ce sera le plus grand réveil mondial de tous les temps durant la grande tribulation. Il y aura 144 000 juifs qui vont évangéliser la terre. Les 144 000 juifs des 12 tribus d'Israël, 12 000 par chaque tribu, qui évangéliseront la terre en amenant les gens à la repentance et en la foi en Jésus pour leurs péchés. Également, il y a quatre positions sur les événements du temps de la fin. Il y a quatre interprétations du livre de l'Apocalypse, comme je l'ai mentionné au tout début. Il y a la méthode futuriste, à laquelle j'adhère, et le point de vue futuriste voit tous les événements à partir du chapitre 4 comme des événements futurs. La deuxième approche est non littérale et allégorique. Cette approche croit que l'Apocalypse est totalement symbolique ou allégorique. Il est simplement destiné à communiquer la vérité, qu'en fait compte, le bien l'emporte sur le mal, le christianisme sur le mal, la cité de Dieu contre la cité de Satan. C'est la théorie de Saint Augustin. Pas Saint Augustin de Desmaures, mais Saint Augustin. La première méthode...
Saint Augustin de
Gomorre. De Gomorre, oui. Parce qu'il est mort, là. La troisième méthode d'interprétation est la méthode historique. Et que l'Apocalypse est une interprétation historique de toute l'histoire de l'Église, de la Pentecôte à la fin de l'âge de l'Église, donc jusqu'à aujourd'hui. Cette approche est devenue populaire pendant la Réforme, alors que les premiers réformateurs comme Martin Luther King et Jean Calvin interprétaient les symboles. Martin Luther King.
Il n'est pas King.
Non, il n'est pas King. Martin Luther. Et Jean Calvin. Pas pourquoi j'ai dit Luther King. Interprétaient les symboles de l'Apocalypse pour présenter l'Église catholique romaine en leur temps. La faiblesse de cette approche est qu'elle interprète tout dans l'Apocalypse comme étant seulement symbolique, plutôt que de suivre de bons principes herméneutiques. Ceci a conduit à un nombre presque infini d'interprétations possibles. car les gens interprètent les symboles pour représenter l'âge dans lequel ils vivent. Vous pouvez prendre des symboles de l'Apocalypse et l'adapter au Moyen Âge, ou encore il y a 2000 ans, ou encore en 2023, ou pendant la période COVID. Un interprétateur a compté jusqu'à 50 interprétations différentes du livre, ce qui n'a aucun sens. La quatrième méthode est la méthode prétériste. C'est quoi ça? Prétériste. Eh bien, ce sont ceux qui déclarent que tous les événements décrits dans l'Apocalypse sont des événements contemporains. C'est-à-dire, ce sont des événements qui se sont littéralement accomplis durant la vie de l'apôtre Jean. Donc, ils sont déjà passés il y a 2000 ans. C'est-à-dire que l'auteur donna une interprétation spirituelle et symbolique des événements politiques de son temps. La plupart des prétéristes croient que l'Apocalypse a été écrite pendant la persécution des chrétiens par l'empereur romain Néron et que les éléments prophétiques ont été accomplis lors de la destruction du temple de Rome 70 ans après Jésus-Christ. C'est vrai, il y a de nombreux éléments prophétiques dans l'Apocalypse qui sont en lien à la fois avec la persécution de Néron, à la destruction du temple. Cependant, l'événement prophétique le plus important qu'il faut que l'on comprenne lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse est le retour de Jésus-Christ, qui n'a pas eu lieu après la destruction du temple en 70. Jésus n'est pas encore revenu. Les prétéristes croient que Jésus est déjà revenu en 70 et que le jugement final a déjà eu lieu. Comment les interprétations historiques et comme des interprétations historiques et allégoriques, l'argument prétériste nécessite d'ignorer de nombreux éléments clairement littéraux de la vision de Jean. Les interpréter comme symboliques peut nous emmener à des spéculations sans fin. En plus, on ne peut se concilier les événements décrits par Jésus dans Matthieu 24 avec les événements du premier siècle. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que nous suivrons une interprétation futuriste de l'Apocalypse parce que ça nous permet d'appliquer les principes de l'herméneutique et qui sont solides pour dévoiler le sens de l'Apocalypse. Donc, en interprétant de façon littérale la vision de Jean, ça nous permet de comprendre tout dans l'Apocalypse, à moins que le texte n'exige le contraire. Pour tracer un plan du livre de l'Apocalypse, on va diviser le livre en quatre parties. Le chapitre 1 à 3 nous parle de l'âge de l'Église, et c'est d'une durée inconnue, parce que l'Église est toujours sur terre présentement. Et l'Église commence à la Pentecôte dans les Actes jusqu'à aujourd'hui. La deuxième section sont les chapitres 4 à 19 qui contient toute la période de jugement des sept années de tribulation. La troisième section est le chapitre 20 et cette section parle de l'âge du royaume de mille ans. Puis la dernière section contient le chapitre 21 et 22 qui parlent d'un âge éternel où le ciel et la terre sont détruits et où que Dieu va créer le nouveau ciel, le nouveau ciel et une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Puis ça va être... J'ai hâte d'être là. Fait que c'est ce qui conclut pour aujourd'hui, mais c'est ça. Avez-vous des questions? Oui?
Juste concernant, là, tu parlais chapitre 4, là, après cela, là, puis...
Oui?
Pas de mention de l'Église, c'est 100% d'accord puis tout ça. Puis, dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que chapitre 1 à 3 sont presque tout accomplis.
Oui.
Puis là, on est sur le bord du chapitre 4.
Oui.
Puis que le chapitre 4, c'est le point de départ, c'est l'enlèvement de l'Église.
Oui.
Juste pour être, c'est ça. C'est oui. Excellent.
C'est ça. Absolument. Oh oui. Après cela.
Est-ce que tu crois que les lettres aux sept églises, dans l'ordre qu'ils sont, ça dépeint l'histoire de l'Église? Tu crois que, tu sais, Éphèse, c'est l'Église apostolique, Smyrne, l'Église persécutée, crois-tu ça?
Là, je suis pas rendu là, mais je vais... J'étudie, je commence à étudier vraiment ce que ça va amener, là. Mais pour l'instant, je me positionne pas encore sur ça, mais je vais regarder. Je vais en parler plus tard. Okay. Au fur de mon étude aussi. Là. Oui? Oui.
Puis t'as dit aussi que ceux qui vont devenir chrétiens, mais ils vont être au prix de leur vie. Donc si c'est 144, ils vont évangéliser au prix de leur vie.
Oui, mais ils pourront pas être touchés à cause qu'ils vont avoir le sceau de Dieu sur eux autres. Puis les autres, ils pourront pas être touchés. Ils vont être vraiment protégés par Dieu. Ils vont arriver des situations qu'on va peut-être penser qu'ils vont mourir, mais non. Ils ne seront pas touchés. Puis c'est ça que Dieu a vraiment mis un sceau sur eux autres pour les protéger, pour qu'ils puissent évangéliser au monde entier. Puis la bête ne pourra même pas lui toucher. Il y a juste les deux témoins que la bête va tuer à la fin. Ils vont monter au ciel. Les gens vont les voir mourir, premièrement. Puis après ça, Dieu va les ressusciter. Puis les gens, puis pendant ce temps-là, c'est ça que j'ai trouvé fascinant, parce qu'il s'offrait des cadeaux, les gens, puis tout ça, puis il faisait la fête parce qu'il était mort. Quand ils ont vu ressusciter puis monter au ciel, ils ont commencé à capoter. Il y en a même qui ont blasphémé, je pense, si je ne me trompe pas, dans ce que j'ai pu voir. Mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on va en parler plus tard. Là. C'est au chapitre 11 de l'Apocalypse. Là. Mais c'est vraiment intéressant. Puis je pense que peut-être aussi, ça serait peut-être Élie, puis Enoch, peut-être. Mais en tout cas, Enoch a une autre position là-dessus. C'est ça. Ben, Enoch, parce qu'il n'est pas mort encore. Ouais. Puis Élie non plus, parce qu'il est monté sur un char de feu. Mais en tout cas, là-dessus, il y a d'autres interprétations aussi. Mais ça laisse présager que ça peut être eux autres. Je ne peux pas le confirmer vraiment. Mais oui.
Est-ce que tu veux. Dans le fond, là, tu commences avec comme un survol, en gros, les grandes lignes.
Là, aujourd'hui, c'était plus comme une introduction à tout ça, mais je veux vraiment décortiquer le livre de l'Apocalypse pour essayer de l'emmener le plus compréhensible possible aussi.
En quatre parties.
Ouais, mais en plus que quatre messages, par exemple.
Non, je vais l'interpréter comme moi, je crois. Mais je vais emmener, selon ce que l'herméneutique biblique, puis selon le futuriste aussi, puis pré-tribulationniste, en tout cas, tous ces liens-là, je vais les emmener de cette façon-là. J'en marquerai pas dans toutes les autres croyances, parce qu'il y en a...
Ça
va être assez long.
C'est comment tu disais, chapitre 1 à 3, chapitre 4 à 10?
Oui, tu disais en quatre parties.
Je vais commencer par le début, puis avec la suprématie de Jésus-Christ, qui est Dieu, puis tout ça, qui révèle vraiment qui est Dieu, là, dans ce... Puis c'est une révélation aussi, le mot apocalypse en grec, il veut dire vraiment plus révélation, là. Puis c'est pour ça qu'ils disent révélation de Jésus-Christ, puis c'est pas la révélation de Jean, comme on dit, c'est pas l'apocalypse de Jean, c'est l'apocalypse de Jésus, en vérité, parce que c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais en tout cas, oui. Donc,
la référence biblique, quand Dieu a dit
qu'ils
seraient protégés par Dieu, une nation, puis qu'ils seraient encadrés par Dieu, c'est ça que je pense.
Ça, je pense, c'est dans Ézéchiel.
Tu vois, ça dit une nation peut-elle naître en un jour, c'est ça?
C'est un prophète. Ésaïe. En tout cas, mais on va étudier ça au fur et à mesure, puis je vais... Parce que moi aussi, je l'étudie là, en même temps. Là, c'est pas une étude que j'apporte, que je sais déjà tout d'avance. Hein, je suis en train de l'étudier en même temps. Là. Alors, maintenant, ils sont déçus, si tu veux que je vous dise.
Ouais.
C'est ça.
Après, on va t'appeler docteur Albert.
Oui?
Ben, de base un petit peu sur les études de Hugues.
Oui, Hugues, ben là, aujourd'hui, ce que j'ai emmené, c'est Hugues, un de mes amis, un frère,
pasteur
au père et à ma femme, il emmène l'Apocalypse, mais aujourd'hui, l'introduction que j'ai emmené, c'est en partie ce qu'il a emmené, mais c'est ça, j'ai...
Ben lui, avec ce que...
Ouais, c'est ça, fait que tu sais, c'est... Mais parce que je trouvais ça vraiment... Avec ce que je croyais, là, Tu sais, c'est pas... Parce que là, je l'ai écrit en deux jours, là, fait que c'était parti d'introduction-là, puis il y avait beaucoup de stock, fait que, tu sais, je connaissais pas toutes ces parties-là non plus. Il y avait des choses, là, comme prétérisme, ces affaires-là, c'est quoi ça, tu sais, je comprends. Tu sais, l'herméneutique biblique.
Je sais
pas
c'était quoi.
Ouais, mais c'est intéressant, j'ai trouvé ça intéressant, puis je vais continuer mon étude aussi, puis je vais aller voir, là, je ne partirai pas sur tout ce qui est enseigné, là, mais je veux dire, aujourd'hui, c'était vraiment, l'introduction, c'était vraiment plus qu'est-ce que lui avait emmené, que j'ai trouvé vraiment, qu'il avait vraiment du sens, puis tout. En tout cas, ça amène vraiment une bonne introduction à ce que j'ai apporté aujourd'hui. Là.
Amen.
Ouais. Fait que c'est ça. C'est bon? Fait qu'on va prier. Merci Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour... ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous révèles. Merci aussi que le livre de l'Apocalypse, tu l'as mis comme une bénédiction pour nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de te révéler. Tu sais, tu dis dans Daniel aussi, c'est toi qui révèles les choses cachées, qui profondes, puis ce qui est dans les ténèbres, il n'y a pas de ténèbres avec toi, parce que tout est lumière avec toi. Fait que tu viens éclairer nos ténèbres, Seigneur. Je te prie vraiment de venir nous éclairer durant cette étude, Seigneur, que ça puisse vraiment être fructifiant pour chacun d'entre nous, puis que ça puisse fortifier aussi notre foi à travers ta parole, puis je te prie ça au nom de Jésus. Amen.